Non, mais vous les avez vus, les écologistes? Eh, sérieusement.
Alarmiste! Tiens! La centrale de Neugent viendra nous péter à la gueule. Que vous les verriez tout de suite à la tombe!
CO2, mon amour.
Au lieu de rester décontracté, détendu.
Si on écoute les écologistes, là, on n'a pas fini, hein?
Dépenser à tous ces déchets? Mais avec tous ces déchets, on pourrait nourrir tout le tiers-monde!
Denis Chesson.
Quoi? Oh, beaucoup tout beau, quoi?
Parce que c'est radioactif? Hé, hey, quand on a faim, on mange, hein?
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 de mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes, oui, nous sommes le changement. Excellent week-end Pascal à tous. Alors bon, journée orange, d'accord, mais nous ça va être bleu, ça va être une journée verte. Et oui, dans CO2 de mon amour, c'est ainsi, avec Gilles Gaillard et Michel Bézikian à la technique, Jean-François Souvili à la régie, et assisté de Claire Destacan, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Et qui commence par évidemment une petite humeur, car ce ne sont pas les explosions de fanatisme que nous attendons, non, l'explosion du printemps est la seule autorisée avec celle de l'amour, de l'amitié et de la créativité. Alors avec mon copain naturaliste Patrick Deschamps, le bien nommé, cette semaine, eh bien nous étions dehors à flairer le printemps, vous savez, un peu comme un chien ou un ours qui ont la truffe en l'air. Imaginez, alors, vous imaginez un talus herbu tout à fait propice, hein, histoire de bien appuyer son dos, donc confortable, juste à la bonne distance, afin d'observer un marais en fleurs sans pour autant le déranger. Donc le rêve. Pas encore de feuilles aux arbres, un fouillis de branchettes, mais bon, un fouillis bien dégagé au-dessus des oreilles quand même, juste des bourgeons nerveux prêts à éclater. Et puis vous aviez un vent du sud très doux, et dans notre cou, juste au-dessus, une bonne douzaine de mufles humides et chauds de nos copains les veaux, qui eux aussi sont venus aux nouvelles. Car nous souffle-t-il, eh ben, on s'emmerde un peu sec quand même dans les prairies d'embouche. Ah ouais, ça on s'embête. Et là, devant nous, le défilé des plumes commence, parade de foulques, accouplement de ramiers, poursuite nuptiale de colverts, suivi d'appontage acrobatique sur l'étang, premier chant du tarier-pâtre et du verdier, pouillot véloce, la flèche bleue du martin qui pêche ou du martin pêcheur, bande de bergeronnettes grises et de pies dans les labours frais hercés, et premier passage d'hirondelles rustiques, le chevalier cul blanc, traversée somptueuse du splendide Milan Royal. Et puis après, ça roue aussi derrière. Et là, vous aviez le Milan Noir qui joue l'aspirateur en tranquille roublard professionnel. Bref, tout le monde semble rentrer d'Espagne et c'est tant mieux. Alors oui, il nous faut cette vie aussi, nous relier à la nature et aussi nous relier à nous autres. Oui, à nous autres et à ce mannequin qui pisse sur les explosifs et la bêtise pour résister au pire. Alors une hirondelle ne fait pas le printemps, mais deux, oui. Alors, c'est parti. Et puis aussi quand même dans l'actualité, ben n'oubliez pas parce que c'est le grand nettoyage de printemps, hein, on vous incite du 25 mars jusqu'au 2 avril si vous avez des bidons de pesticides chez vous. Ben oui, c'est le nettoyage de printemps avec les alternatives sans pesticides. Donc si vous avez des bidons de pesticides chez vous et que vous êtes enfin convaincu de renoncer à les utiliser et vous savez pas quoi en faire pour vous en débarrasser. Alors pour la troisième année consécutive, là je les cite parce que vraiment ils ont été précurseurs, les magasins botaniques les récupèrent pour les détruire via une filière donc est agréée. C'est une initiative pertinente qui doit être encouragée. En plus, ils ont été les premiers à arrêter d'en vendre. Et la prochaine étape, eh ben, vous faites pareil avec les actions Bayer, Syngenta et Monsanto. Alors que va-t-il se passer dans cette émission? Donc au menu deux sujets. Un sujet environnement et aménagement du territoire qui va être absolument controversé. Europa City, au nord de Paris. Alors Europa City, qu'est-ce que c'est? Bah, vous allez le découvrir. Outil de développement local signé Immochan avec 11 800 emplois à la clé. Ou bien Gouffre écologique avec une emprise sur d'excellentes terres agricoles d'Île-de-France. Le débat public vient d'être lancé. Le nôtre aussi avec nos invités. Et puis après on aura besoin de grand air. Donc je vais vous emmener avec mon copain Christian Couloumi dans les Hautes-Alpes. Nous allons être au bord du Kera, c'est très beau, découvrir son aiglodrome, c'est un délice, autrement dit un lieu d'accueil et surtout plutôt d'observation des aigles qu'il aime tant avec son association, donc Envergure Alpine. Voilà au menu, on vous souhaite un bel après-midi et on commence par qui? Ah, ça s'impose là.
Je suis né en mer, C'est moi le printemps, d'un ventre épais, j'ai foutu le camp, mais scarifié, mais en pleurant, mais sacrifié, mais en passant. Je suis né en mai, c'est moi le printemps, j'ai rien demandé. D'acier m'emprisonnant, je suis né en mai, c'est moi le printemps, moi qui rêvais d'hiver tout blanc.
Monsieur Mamie et Monsieur Pirelli. À partir d'aujourd'hui, ils travaillent pour vous, donc.
Mais ils sont que deux pour faire tous les travaux.
Ben oui, ils sont polyvalents, ça, ils savent tout faire.
Bon, ben, par quoi on commence?
Qu'est-ce que vous voulez comme travaux?
Mais vous n'avez pas amené de plan?
Ah, c'est que quand on est perdu qu'on a besoin de plan.
C'est où de mon ami?
Oh, je m'excuse. Non, les plans, c'est une invention de l'architecte pour justifier les grosses factures, c'est tout.
Avec Denis Chessou. Sur France Inter.
Ah bah oui, nous on va parler un peu d'immobilier, on va parler un petit peu de plan. Prenez votre temps si vous êtes sur la route, tranquillement, vous êtes bien sur France Inter. Donc deux sujets aujourd'hui, vous l'avez compris. Un sujet assez de société avec Europa City, j'en parle dans quelques instants. Et puis après, donc nous aurons nos aigles avec Christian Couloumi. Donc suite du feuilleton sur l'urbanisation des terres agricoles, bon, on le sait, en France, en gros, c'est un département entre 5000 et 5500 km² qui passe sous le bitume tous les 6-7 ans aujourd'hui. Donc suite de ce feuilleton, mais cette fois dans le triangle de Gonesse, on est au nord de Paris, et le groupe Auchan et sa branche immobilière Immochamp veut implanter Europa City, un complexe qui associerait commerce, loisirs, hôtellerie, culture et hop, piste de ski incorporée. Investissement 3,1 milliards, plus quand même des fonds publics qui sont derrière. 230 000 m², 2700 chambres d'hôtel, 20 000 m² d'espace de congrès, 2500 places de cirque. Alors derrière tout ça, il y a un établissement public et celui de la Plaine de France, qui d'ailleurs effectivement existe principalement avec Europa City. On est sur un territoire de 300 km². On a 1 million d'habitants, 30% de cette population a moins de 20 ans, et on le sait, le taux de chômage est plus élevé que dans le reste de la région. Alors ici, il faut imaginer donc les champs qui sont cernés par deux aéroports, le Bourget, Roissy, un balai de 1700 avions par jour, l'autoroute A1, la ligne TGV, les friches industrielles de l'usine PSA d'Aulnay, vive la nature, et donc le débat public, pourquoi on en parle? Parce que le débat public sur ce projet Europa City, a débuté donc le 15 mars, c'est jusqu'au 30 juin 2016, et je ne peux que vous encourager, puisque donc c'est organisé par la Commission nationale du débat public, de vous inscrire, de réagir. Vous avez le site sur le site de CO de Mon Amour. Et donc l'ambition d'Europa City, c'est de devenir un des pôles du Grand Paris, donc un des plus grands pôles de commerce et de loisirs. Alors Christophe Dalschein, je me tourne vers vous, directeur donc de ce projet. Vous défendez ce projet qui est ultra-capitaliste et financier d'Immochamp, qui devrait voir plus tard d'ailleurs le renfort d'un groupe chinois, Vanda, qui est le numéro 1 en parc de loisirs. Et lorsque l'on parle en fait de projet structurant, Christophe Dalschein, ça structure quoi ?
Alors effectivement, le projet Europa City est un projet qui est né avec l'ambition du Grand Paris. Europa City a l'ambition de devenir une nouvelle destination de loisirs à l'échelle de l'Île-de-France, c'est-à-dire grande métropole dans laquelle nous vivons 12 millions d'habitants, première destination touristique dans le monde.
Mais un peu comme Disneyland, ou...
C'est un projet qui fédère un certain nombre d'activités, et donc c'est un endroit où on pourra effectivement venir dans un parc à thème, mais où on va pouvoir aussi assister à un spectacle dans une salle de spectacle, où on va pouvoir voir une exposition culturelle dans une grande halle, où il y aura des hôtels, comme vous l'avez mentionné, où il y aura des grands magasins, et ça se développe à l'échelle d'un quartier, 80 hectares, un morceau de ville structuré avec un parc de 10 hectares, une rue piétonne qui desservira l'ensemble des programmes que je viens de mentionner.
On parle d'une station de ski aussi, quand même, façon Dubaï, là.
Dans les grands équipements de loisirs, il y a effectivement un parc aquatique, il y a un parc à thème, et il y a un parc des neiges, effectivement, donc une piste de ski.
Mais c'est quoi cette folie-là, là, j'aime bien qu'on en fait sur les terrils, hein, peut-être, mais quand même.
Ça... Alors, effectivement, comme vous dites, on en fait sur les terrils. Il y a beaucoup de pistes de ski qui ne sont pas nécessairement la provocation environnementale qu'on imagine. Hein, ça ne sert à rien d'extraire un des éléments du programme de l'ensemble du développement urbain, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir.
Ça interpelle quand même.
Ça interpelle, mais oui. C'est un vrai élément de différenciation et un vrai élément d'attractivité à l'échelle de l'Île-de-France.
Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter ce reportage signé Thomas Chevineau avec Alain Lennuyeux, qui est un des opposants à ce projet, et un agriculteur.
Ça part de la route que vous avez là-bas au sud pour aller derrière la ligne d'arbres qui est à 1 km d'ici.
Avec ce qui serait une sorte de nouveau centre commercial, finalement.
Un nouveau centre commercial et...
Alors, attendez, vous avancez sur le chemin, là.
Oui, j'avance sur le chemin et je vous montre là-bas au sud l'enseigne d'un groupe Carrefour. C'est le premier centre commercial qui s'appelle Au Paris Nord. Il est là depuis 40 ans. Il dispose de 200 boutiques aujourd'hui et d'un complexe cinématographique.
Donc, il serait à vol d'oiseau à...
1 km, on va dire.
1 km du futur centre commercial.
Du futur Europa City.
Europa City.
Ensuite, sur l'est, vous avez un centre commercial qu'on voit bien là-bas, Paris Nord 2.
Et donc là, ce serait pareil à 1 km à vol d'oiseau.
Oui, on va dire 1 km. C'est équidistance entre ces deux centres, le projet Europa City. Et alors, si on continue notre autoroute A1, on arrive au bout du triangle de Gonesse. Et là, on découvre un nouveau centre commercial qui a été inauguré en novembre 2013 à Aéroville. Aéroville, c'est 200 boutiques, c'est un complexe cinématographique. Ce n'est que la duplication en 3 exemplaires du même type de centres commerciaux. Et donc, on voudrait nous faire croire que 3 centres et un 4e centre en plein milieu pourraient permettre à la population du secteur de pouvoir les fréquenter. Or, c'est impossible. Les populations n'ont pas, comme nous tous, on n'a pas 3 porte-monnaies. On va faire une course dans un centre et puis c'est terminé. Mais aujourd'hui, si vous voulez, ce qui pousse les promoteurs de centres commerciaux, ce n'est plus l'activité boutique. Aujourd'hui, c'est purement de l'investissement immobilier. On achète des terres à moindre coût, on y construit un centre commercial et autour d'un hypermarché. Et on ne vit pas par les ventes de l'hypermarché, mais on vit par la location des mètres carrés aux différentes enseignes dans le centre commercial.
En même temps, qu'est-ce que ça peut bien vous faire qu'il y ait un centre commercial plus qui vienne s'installer là ?
Qu'est-ce que ça peut nous faire ? On va détruire les plus riches terres agricoles d'Europe. Elles ont été estimées par l'INRA comme les terres les plus riches d'Europe. C'est des terres qui ont mis entre 15 000 et 25 000 ans à se constituer. Il faut laisser c'est même fondamental de laisser une terre cultivable. Ces terres cultivables, c'est du patrimoine de l'humanité. Pourquoi allons-nous les privatiser ? Pour nous, nous estimons que non, ça correspond à aucun besoin de la population.
Là, je suis maintenant avec Robin Pé, qui est agriculteur et qui exploite 130 hectares ici dans la zone où il devrait y avoir ce nouveau futur centre commercial. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette terre que vous avez dans les mains, là, que vous égrenez ?
C'est de la terre très fertile. Ici, on fait pousser du blé et on a des rendements de 10 tonnes hectare, ce qui est très largement supérieur à la moyenne française.
Finalement, qu'il y ait un centre commercial dessus, qu'est-ce que ça peut bien vous faire ?
Bah, ça peut me faire que moi, à 21 ans, je souhaite faire une carrière d'agriculteur. Donc, pour l'agriculture, il faut avoir de la terre, forcément. Et donc, si on nous grignote encore quelques hectares en plus de mes 130 hectares, ça fait que l'exploitation sera plus viable. Pour l'instant, elles sont encore à nous, ces terres. Sachant en plus que les centres commerciaux, il y en a déjà trois juste à côté, quoi. Et une piste de ski, je pense qu'en France, on n'en a pas besoin. On a déjà assez de montagnes pour faire du ski.
Alors dans ce débat, je me tourne vers vous, Jacqueline Lortiois, parce que vous êtes une des cofondatrices du collectif pour le Triangle de Gonesse. C'est vrai qu'il y a des centres commerciaux, ça manque pas. Même si on a bien compris qu'Europa City, c'était autre chose qu'un centre commercial. Enfin, quand même, il y a du monde. Hein.
Enfin, si vous voulez, à 5 km à la ronde du site où pourrait se tenir Europa City, parce que nous utilisons toujours le conditionnel, et oui, monsieur Dahlstein s'est un peu lâché, bah parce oui. qu'il a pris le futur, mais lorsqu'il y a eu la réunion du débat public, il avait le conditionnel, ce qui nous avait particulièrement touché, ému, oui. Donc nous, on garde le conditionnel, et donc si vous voulez, il y a à peu près 140 000 mètres carrés dans un rayon de 5 km avec Aéroville, 83 000 mètres carrés, qui se trouve sur Roissy et Tremblay, il y a Haut Paris Nord sur Aulnay, il y a Paris Nord 2 sur Gonesse,
etc. Ce qui veut dire que ça va assécher peut-être aussi ces centres commerciaux qui sont peut-être
profondément en pleine forme, d'ailleurs. Ça double la surface. Et on a l'exemple à Sarcelles, où on a les Flanades qui faisaient 44 000 mètres carrés, puis il y a eu My Place à la sortie de Sarcelles sur la même commune, et qui a fait mourir les Flanades. On ne peut pas mettre deux coques dans la même bosse court.
Alors regardons aussi l'argument des terres agricoles. On est en Île-de-France. C'est vrai que c'est une des terres les plus riches véritablement de France, on l'a bien compris, avec parfois des profondeurs jusqu'à 6 mètres. Bon, c'est peut-être pas forcément le cœur de votre affaire, vous, Christophe Dahlstein, mais qu'est-ce que l'on peut répondre à cela ?
Plusieurs choses, si vous me permettez. Effectivement, le premier point, c'est de remettre le projet Europa City dans son contexte. Et effectivement, il s'inscrit dans une opération publique d'aménagement portée par l'État, par le biais d'un établissement public d'aménagement, parce que la puissance publique a fait le choix, sur ce territoire, de créer du développement économique. Et je crois que ça se justifie assez bien par rapport aux communes qui entourent le site, Gonesse, mais aussi Garges, les Gonesses, Sevran, Drancy, Villiers-le-Bel, Sarcelles, qui sont
avec
un taux de chômage où le taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans est presque de 50%. Donc la puissance publique a fait ce choix d'abord du développement économique, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'effectivement ce projet, il s'inscrit dans une urbanisation qui a été voulue par la puissance publique, par l'État, par la région, par les collectivités locales. Bien sûr qu'on peut se poser la question au regard de la localisation, de l'histoire de ce site, je comprends parfaitement que ça pose cette question-là. Pour autant, il faut regarder aujourd'hui quel est le modèle aujourd'hui agricole qui est développé sur ce site.
Bah, c'est un modèle productiviste, on va dire.
C'est un modèle effectivement productiviste d'industrie céréalière et qui.
Là où autrefois il y avait du maraîchage, mais c'était une autre époque.
C'était une autre époque.
Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que l'on peut dire aussi sur ce thème-là ?
Je
ne
suis pas du tout d'accord avec ça. L'Île-de-France, terre agricole les plus riches d'Europe, peut-elle se permettre de ne produire que quelques pourcents de son alimentation ?
4 jours à 5 jours de suffisance alimentaire en Île-de-France.
Exactement.
Aujourd'hui.
Et moi, je suis pour inverser la question. C'est-à-dire, au lieu de se dire, qu'est-ce qu'on peut bien faire sur ce triangle de Gonesse, on se dit, est-ce que, oui ou non, on relève le défi alimentaire pour les 12 millions d'habitants de l'Île-de-France, et à ce moment-là, où mettons ces ressources alimentaires ? Eh bien, sur les meilleures terres, et à ce moment-là, on conserve les meilleures terres. Et à mon avis, le défi alimentaire qui concerne l'ensemble d'une population, 100% des gens ont besoin de manger, il n'y a que la moitié de la population qui a besoin de travailler. Donc je trouve que le défi alimentaire passe devant le défi et l'enjeu emploi.
Christophe Dahlstein, parlons de l'emploi. Vous avez commencé à en parler, vous sortez un chiffre de 11 800 emplois. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Parce que là, évidemment, dès que vous dites ça à n'importe quel élu, ils sont à pieds joints, quoi. Ils vous disent, oui, d'accord, on déroule le tapis rouge et on y va.
Bien sûr, moi je crois qu'il ne faut pas opposer effectivement les préoccupations exprimées par Madame Lortiois de la réalité de ce territoire et de la réalité de ce que vivent les habitants de ce territoire. Moi j'ai été très frappé lors des réunions du débat public. Le débat public a commencé le 17 mars dernier et lundi soir dernier, nous étions... à Sarcelles un atelier sur le commerce, justement, et il y avait une jeune fille de 25 ans qui me disait « J'ai 25 ans, je suis au RSA, j'habite Sarcelles, quelle formation est-ce que je dois suivre pour pouvoir avoir accès aux emplois que vous allez créer ?» Je crois que nous avons ensemble, collectivement, avec les partenaires publics, une responsabilité dans le temps long de ce projet de pouvoir agir pour former les habitants du Val d'Oise, les habitants de la Seine-Saint-Denis aux emplois qui sont
mis. Quel type d'emploi C'est-à-dire, est-ce que c'est, bon, là, je grossis le trait exprès, caissière, hôtesse de caisse, avec un bac plus 5, ou bien dans cette quoi?
Alors, non, pas du tout, parce que tout d'abord, et c'est tout l'enjeu de ce projet, c'est qu'on voit bien que le commerce évolue profondément, parce qu'on est à un moment où la révolution digitale transforme profondément les lieux de commerce, et qu'il y aura forcément des adaptations, et c'est normal. Le projet, il est beaucoup plus large que ça, et c'est à moins de la moitié des emplois qui seront créés par le projet, qui seront dédiés au commerce, et beaucoup des emplois de service, beaucoup des emplois dans l'hôtellerie, beaucoup d'emplois dans les métiers de l'accueil, et donc il y a une grande panoplie à la fois de métiers, hein, plus de 80 métiers au moment où le projet ouvrira, et une typologie d'emplois qui va majoritairement du niveau bac jusqu'au bac plus 5.
Jacqueline Lortiwa, vous avez beaucoup travaillé sur l'emploi, pas évidemment que sur EuropaCity, mais déjà en amont, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce... Sur ce chiffre, parce que c'est vrai qu'il est assez étonnant, quoi. On se dit 11 800 emplois, et c'est même très précis.
J'ai l'expérience d'avoir aidé, j'ai été conseil pour la MPE sur la plantation du Disneyland. On dit des emplois créés, moi je conteste totalement la notion d'emploi créé, il y a pas mal d'emplois déplacés, et si vous voulez, il faut toujours faire un solde, c'est-à-dire les emplois qui sont amenés quelque part, et puis les emplois qui sont supprimés parce que ça fait mourir un certain nombre de choses.
Mais est-ce qu'on est sûr que ces emplois seront des emplois locaux? Parce qu'il y a quand même...
Alors on a l'exemple de Disney. Disney a promis des emplois locaux, il a promis des recrutements, etc. Que fait-il? Il fait des castings à Bruxelles, en Irlande. Il va chercher des chômeurs Bac plus 5 en Espagne, en Grèce. Il les implante dans des mobilhomes qui sont sur le parc. Et après, ça permet d'afficher que le taux d'emploi local est de 70%. Donc ça ne va pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'utilité pour les habitants. Et on peut prendre l'historique, hein, c'est-à-dire qu'au départ, les communes ne voulaient pas de l'implantation de l'aéroport de Roissy. On leur a promis tellement d'emplois qu'ils ont tous craqué. Et ils ont accepté cet aéroport. Depuis qu'il s'est développé, eh bien, je constate que l'affluence de Roissy ne s'est pas intensifiée sur le territoire de proximité, mais qu'au contraire, l'aire de recrutement de Roissy s'est étalée en tache d'huile sur la moitié de l'Oise et une partie de l'Aisne. Et aujourd'hui, le bassin de Roissy comporte 293 communes, d'après l'INSEE, et il y en a 200 qui sont en Picardie. Donc, on n'a pas amélioré le taux d'emploi local. Et je prends par exemple l'exemple de Gonesse. Gonesse, j'ai regardé ce qui s'était passé de 99 à 2012. Ils ont gagné 3000 emplois qui se sont implantés sur les zones d'activité. Et ça a fait travailler 3 Gonessiens de plus qu'en 1999. Donc ces emplois ne servent pas aux habitants. On fait croire que ça va servir aux habitants. Et en fait, c'est pour pouvoir faire du profit. Je suis désolée, mais depuis quand est-ce qu'un grand groupe capitaliste
est
altruiste?
Ça n'a jamais été dit comme ça. Enfin,
utile aux habitants, que ça va leur apporter de l'emploi, que ça va leur permettre de s'amuser, etc. Je ne crois pas. Je crois que ça va au contraire dégrader et créer des inégalités territoriales aggravé.
David Mangin, je vais me tourner vers vous. Bonjour à vous, David Mangin.
Bonjour.
Vous êtes architecte urbaniste, vous travaillez sur le Grand Paris, vous travaillez aussi sur les Halles, sur Toulouse, vous avez aussi construit des écoquartiers du côté de Douai, donc vous connaissez très bien tous ces éléments. Et vous regardez EuropaCity avec quand même pas mal d'intérêt. Quand vous disiez, c'est une histoire qui ressemble un peu à Dubaï, qu'est-ce que vous vouliez dire?
Je veux dire, quand on regarde les images, parce qu'il faut quand même regarder un peu la réalité physique de ce qui est proposé, c'est grosso modo l'âge des centres commerciaux d'aujourd'hui, des jumbo, comme on dit maintenant, où on a une tentative d'hybridation entre la culture, le loisir et le commerce.
On nous explique que ça va dans le sens de l'histoire aujourd'hui, enfin de la consommation. Ou alors c'est ce que l'on veut nous induire.
C'est un peu la fameuse formule d'Andy Warhol, tous les musées vont devenir des centres commerciaux, tous les centres commerciaux vont devenir des musées. Bon, donc c'est un peu ça qui est proposé, qui commence
à émerger. Il y aura un bout de piste de ski, un bout de Louvre, un bout d'univers science.
Un bout de sorte d'aqua boulevard, etc. Bon. Moi, il me semble que...
Et la location par Immochamp, parce que c'est comme ça le but aussi, de louer les...
Il y aura des tas de choses. Le problème de ce site, comme ça a été dit en introduction, c'est qu'il appartient à un territoire très stratégique dans le Grand Paris, où il y a énormément de projets qui se développent aujourd'hui. Et le problème, c'est d'articuler ces projets, les hiérarchiser, les faire fonctionner dans une bonne synergie, et pas, je dirais simplement, en rajouter un, que les gens se cannibalisent entre eux. C'est peut-être un peu leur problème, c'est pas trop le mien. Par contre, on a quand même l'expérience de comment le commerce peut tuer les villes, quand même. Il faut arrêter avec ce modèle. De très nombreuses communes,
on le voit très bien, c'est 50% lorsqu'il y a effectivement un centre commercial à l'extérieur. Ouais. En gros, c'est 50% en moins à l'intérieur.
Alors, certes, on est à une toute autre échelle. Je comprends la dimension internationale, faire venir les Chinois, faire du tourisme, etc. Mais je pense que il y a l'articulation entre le réseau du Grand Paris Express, cette fameuse ligne 17 qui doit faire une station, qui pour le moment est quand même captée comme une entrée directe, un peu comme pour Disney, RER TGV a été capté. Et je pense qu'il faut vraiment, dans une stratégie, d'optimiser les situations aujourd'hui. Optimiser le foncier, optimiser les infrastructures, optimiser les projets qui existent. Et à cet égard, donc, si on doit faire une station, il faut qu'elle profite à tout ça.
Christophe Dalstein, je le rappelle, donc directeur de ce projet Europa City.
Il y a beaucoup de choses dans ce que dit Monsieur Mongin. Alors tout d'abord, je crois que la façon dont il résume le programme est tout à fait caricaturale. Un parc urbain de 10 hectares, une rue piétonne d'un kilomètre et demi ouverte, ça ne permet aucunement de résumer le projet à un centre commercial. Le deuxième point, c'est sur ce que vous mentionnez sur cette ligne 17. Expliquer aux habitants du Val d'Oise, expliquer aux 350 000 habitants de la communauté d'agglomération que cette ligne 17 qui va connecter Gonesse à 24 minutes de Paris de Saint-Lazare, à 7 minutes de l'aéroport de Roissy, elle ne sert qu'à desservir un projet privé. C'est absolument pas le cas. Ce tracé-là était le tracé qui avait fait l'objet d'un débat public en 2010-2011. C'est la seule gare dans le Val d'Oise et elle vise à porter le projet de développement économique global qui est prévu sur ce site-là par l'État, par le biais de son établissement public d'aménagement, et dans lequel Europa City participe, mais n'est qu'une des composantes.
Je vous en prie, David Mangin.
Là, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que la station, quand même, elle est pas bien placée là. D'ailleurs, quand il y a eu la consultation, elle était placée plus bas pour justement garder plus de terres agricoles. Ça a remonté et quand même capte par rapport à des territoires en mutation formidables où on peut faire emploi habitable beaucoup plus proche et refaire des emplois d'ailleurs d'une autre manière.
Alors pour digérer tout ça, je vous propose un peu de musique. On va revenir donc sur ce débat sur Europa City. Vous êtes bien sur France Inter, c'est bien CO2 mon amour. Un petit Paul McCartney, hein? Bah oui, vous levez tous le doigt là normalement. Oui, en plus c'est un classique.
CO2 mon amour sur France Inter.
And more.
Ah ben sur France Inter, on est là pour soutenir les jeunes, nous, bah oui, Paul McCartney, donc Sea Love Songs, vous l'avez reconnu, CO2, Mon Amour, un débat sur Europa City, donc ce projet donc au nord de Paris avec Jacqueline Liortiwa du collectif pour le Triangle de Gonesse, avec vous David Mangin aussi, architecte urbaniste travaillant sur le Grand Paris, Christophe Dahlstein donc, qui est le directeur de ce projet. Je tiens à préciser que nous avons enregistré pour des questions Pascal, c'était un peu compliqué de réunir tout le monde, aujourd'hui en direct. Donc, nous avons enregistré ce débat, donc c'était jeudi. Et alors, je me retourne vers Christophe Dahlstein parce qu'en fait, il y a un chiffre qui est très intéressant, qui est celui de l'ambition que vous avez pour faire venir les visiteurs. 30 à 40 millions. Bon, par an. Alors que quand on regarde l'ensemble des 300 parcs de loisirs en France, ils drainent 30 millions de visiteurs, dont 14 millions à Disneyland, 2 millions au Puy du Fou. Alors, comment en fait, on sort ce chiffre séduisant, certes pour les investisseurs, les futurs commerçants du chapeau ?
Parce que le programme, effectivement, a cette variété-là, et pour les équipements de loisirs, tous cumulés, le potentiel de visite, il est de l'ordre de 4 millions. Donc, ils ne cherchent en rien à concurrencer les chiffres que vous mentionnez là.
D'accord, oui.
Suis tout à fait stupéfaite par ces chiffres et que ça prouve bien que c'est un centre commercial. Parce que si c'était d'abord un centre culturel, on a le premier pôle. Quand on dit
qu'il sera
aussi culturel, etc. Le premier pôle culturel mondial, nous l'avons sur notre territoire, c'est le musée du Louvre, 9 à 10 millions de visiteurs par an, dont 40% de gratuits. Ensuite, il y a les parcs d'attractions. C'est l'ensemble de tous les parcs d'attractions, c'est 30 millions de visiteurs, donc c'est impossible. Et les seuls chiffres où on a 30 ou 40 millions de visiteurs, ce sont des centres commerciaux. C'est évidemment
la Défense, aux Quatre Temps, par exemple.
C'est les Quatre Temps de la Défense, et puis c'est le Forum des Halles. Donc ça prouve bien que c'est un centre commercial. Et or, on a des maquettes merveilleuses avec des superbes ciels bleus, des gens qui se promènent, etc.
Alors, vous avez promis de la pluie, hein, ça c'est sûr.
On a oublié la bande son. La bande son, c'est 1700 avions qui viennent de Roissy, mais on a oublié ceux qui viennent du Bourget.
Comment on fait là, effectivement ? Parce que moi j'ai vu ça, des parents avec des poussettes et que ça c'est formidable, mais enfin s'il y a du kérosène un peu partout, ça ne peut pas être la même chose. Vous voulez confiner ou faites quoi ? Vous leur donnez un masque à gaz ?
J'espère que les avions ne larguent pas de kérosène avant d'atterrir ou de décoller.
Non.
Le site...
Le fond, en cas de procédure d'urgence, mais ça c'est autre chose.
L'implantation, le site du sud du Triangle de Gonesse, qui est dans la zone urbaine dense de l'Île-de-France, n'est pas concerné par le survol des aéroports de Roissy. Autant les villes de Gonesse, de Sarcelles sont très directement impactées, effectivement, par les nuisances sonores de l'aéroport de Roissy, autant la partie que la puissance publique a décidé d'aménager n'est pas impactée par l'aéroport de Roissy, donc on ne peut pas dire les 1700 avions. Clairement, le site est impacté par le bruit de l'aéroport du Bourget, et il y a en moyenne 160 rotations à l'aéroport du Bourget d'avions qui sont plutôt des petits porteurs.
Ensuite, il y a le bruit de l'autoroute, et je crois que c'est le plus marquant, c'est que ce site, il est quand même aujourd'hui, effectivement, peu amène. Il est au bord de 15 voies d'autoroute qui sont au niveau du sol, et donc il y a aujourd'hui effectivement des contraintes sonores importantes sur le site, des contraintes aussi sans doute de pollution générées par l'autoroute. Et là, le travail qui est conduit par notre équipe d'architectes, pilotée par Bjarke Ingels, c'est justement d'arriver à créer un environnement qui permette d'assurer un confort à ses visiteurs, à ses employés, et donc on se protège assez facilement en termes de conception de ces nuisances aujourd'hui qui sont principalement celles de l'autoroute.
Alors l'autorité environnementale qui rend un simple avis a été saisie par l'établissement donc public d'aménagement de Plaine-de-France. Bon, ils émettent quand même un certain nombre de réserves. Et alors si on clique sur la case énergie, vous vous dites on va être autonome en énergie. Bon, là ils sont un petit peu quand même inquiets sur cette affaire-là. Est-ce qu'on est vraiment très COP21, vous voyez, avec ça ?
Le projet, justement, et le projet était tel qu'il est travaillé par Big, vise à créer ce nouvel écosystème. La taille du projet, le montant d'investissement permettent justement d'être très ambitieux sur le sujet. Et donc aujourd'hui, nous travaillons sur différents scénarios et effectivement, on voit bien que 100% de l'énergie qui sera consommée par le projet EuropaCity pourrait être produite sur place, que
la totalité
j'hésite entre le conditionnel et futur. Alors voilà, mais il n'y avait pas du tout de volonté. Pourra être produit sur le site. L'ensemble des besoins en eau non potable seront issus des eaux pluviales. Et donc on a là la chance finalement d'être dans un pays où on a parmi les principaux leaders dans les fournisseurs d'énergie. On a la taille d'un projet et des porteurs de projets qui ont envie de créer ce nouvel écosystème. Donc accordons-nous au moins le bénéfice du doute. Travaillons ensemble pour pouvoir mettre en place ce nouveau standard environnemental, pour pouvoir avoir là un démonstrateur de ce que notre pays est capable de faire dans le domaine.
Je me tourne vers l'architecte urbaniste. Ça vous semble, je sais, vous n'avez pas forcément tous les chiffres en main, David Mangin, mais enfin ça vous semble possible?
Non, mais je pense qu'il y a une question importante qui est soulevée, celui de l'autoroute A, à la fois parce qu'en termes de trafic, il est déjà très très chargé. Il y aura forcément des gens qui vont arriver de l'autoroute A1, ou des bus, ou des cars, ou simplement des
En plus
des
de la visiteurs. File de camions interrompue.
En plus, bon, ça c'est comme un sujet sur lequel les spécialistes, l'ex-direction de l'équipement sûrement des idées, mais c'est quand même un gros sujet. Dans l'affaire de la station, moi je pense qu'il y a une des propositions possibles, c'est la station de Grand Paris Express, c'est de la mettre en connexion, en intermodalité, comme on dit dans le jargon, entre l'autoroute, c'est-à-dire l'automobile, et un début, par exemple, de BHNS sur l'autoroute A1, c'est-à-dire un bus à haut niveau de service sur l'autoroute A1, et une gare qui pourrait fonctionner sur Aulnay et sur le sud du triangle de Gonesse.
Parce que ça peut être tenable si c'est que du tout voiture. Enfin, c'est pas possible. On n'est pas dans le tout voiture.
La moitié des visiteurs, parce que justement, c'est un projet où on viendra beaucoup plus une journée pour passer en famille un moment au parc aquatique, aller voir un spectacle de cirque, aller dans un grand magasin, et l'objet on partira pas avec ses courses, et donc la moitié des visiteurs viendront par les transports en commun.
Et bon, donc, vous allez bien faire un chien un peu quand même, vous m'exagérez quelque chose. Non, sinon, pour faire le cirque.
Les moyens, enfin les façons de consommer évoluent profondément. Est-ce que demain on achètera sur Internet? Est-ce qu'on se fera livrer quelque chose qu'on aura vu dans le magasin? On est à cette époque de l'omnicanal, et n'opposons pas les modèles. Et effectivement, je ne crois pas qu'on viendra dans ce lieu-là, et certainement pas pour y faire ses courses du quotidien, parce que cette offre-là, et Monsieur Mangin et Madame Lortillois l'ont rappelé, il y a une offre qui existe déjà et qui est dédiée à ça.
Petit tour de table rapide, nous sommes dans un magazine de nature et d'environnement. Est-ce que ceci vous paraît très écologique, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout, Christophe Dolstein?
Ce projet devra l'être parce que il s'inscrit dans un temps long, 2024 pour son ouverture, et répondre aux attentes de ses visiteurs en 2030, en 2040 et au-delà. Donc il devra être exemplaire, et on y travaille. Aujourd'hui, on a dans le cadre du débat public un état de l'art à date de ce qui pourrait être fait, et je pense que le débat public va nous permettre justement de pouvoir présenter ça sur les questions de biodiversité, sur les questions d'énergie, sur les questions d'eau, sur les questions de déchets, sur les questions de transport. Et on voit bien, sans doute, que l'on peut encore progresser, mais on voit bien que ce projet peut et devra créer quelque chose de nouveau.
Jacqueline Lortillois,
sur
ce thème.
Moi, je suis choquée par l'anthropomorphisme de l'espèce humaine. On aurait une grotte Chauvet de 15 000 ans d'âge. Jamais les bâtiments de France, jamais le ministère de la culture ne laisserait faire un tel projet, sous prétexte que c'est la nature qui a produit ces terres extrêmement riches qui ne nécessitent aucun arrosage. Et qui permettent de produire des céréales qui représentent 20 millions de baguettes de pain par an et donc de nourrir 120 000 personnes.
J'ai fait le calcul.
Voilà, on a fait le calcul, absolument. Et ben, je trouve que sous prétexte que c'est la nature qui a fait cette merveille, eh bien, c'est considéré comme sans valeur, alors que si c'était l'humain, on ferait attention de le préserver. Donc moi, je suis pour le retour à la modestie et tenir compte de la nature comme une ressource. Et ne pas faire d'anthropomorphisme.
Mais est-ce que la modestie est une valeur d'avenir ? Eh bien, nous verrons cela, ainsi que la sobriété heureuse. Merci en tout cas d'avoir débattu autour de ce projet. Donc des sites, sur le site de CO2 Mon Amour, là aussi vous pouvez vous-même donc réagir, surtout n'hésitez pas. C'est un projet qui a donc le soutien total de Laurent Fabius, ancien président de la COP21, de Anne Hidalgo, du préfet de la région Île-de-France, M. Caronco, et de plein d'autres. Et puis aussi, d'autres le combattent, Edgar Morin, Jean-Marie Pelt aussi avait signé, Gilles Clément, Dominique Bourg, que vous avez entendu donc la semaine dernière. Alors voilà, maintenant ce qui est important, c'est la Commission nationale du débat public. Je remercie sa présidente, la présidente qui est en charge de ce débat sur Europa City, Claude Brévent. Donc on est chargé de veiller à l'information du public. Et puis donc à la fin, c'est pas de donner un avis, mais c'est une synthèse des différents points de vue. Donc suivez ça, vous avez le site sur celui de co2franceinter.fr.
On était beau, c'était d'hier, bercé par les hélicoptères, un peu de sable dans tes cheveux, d'azur s'embrasse parmi les feux, plus rien ne naissait sur nos terres, le ciel rempli d'hélicoptères, au printemps rien. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des horizons. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des horizons. Au milieu des briques de poussière, détruites par les hélicoptères, paysages décor, paresseux, parlez nos corps et mon curieux, brandissant les feux délétères, contre tous ces hélicoptères, résidents d'une pierre militaire, d'amour s'en va. Qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des horizons. Ta main qui dessinait en l'air un paradis derrière la mer, un désert où tenait le son, loin de l'écho des horizons.
Interprété par le groupe Minou. Oui, c'était donc Hélicoptère. Remarquez, Thierry Dupin, notre programmateur, a un sens de l'enchaînement. On n'était pas loin de Roissy avec Europa City. Et là, c'était donc Hélicoptère. On va regarder. On va regarder le ciel là aussi, mais ça vole tout seul, sans mécanique. Je vous emmène dans les Hautes Alpes pour cette dernière page nature. Voilà, Christian Coloumi, comment allez-vous ?
Bonjour Denis, ça va très bien.
On est chez vous, on est chez vous dans ces Hautes Alpes. Et alors, vous nous avez emmené sur un aiglodrome. Ça, c'est drôlement sympa aujourd'hui.
Oui, c'est mon perchoir, c'est un aiglodrome. C'est un endroit où les aigles passent souvent parce que le relief s'y prête. Le relief aide le vent à faire monter les aigles. C'est un aiglodrome.
Et alors donc, en fait, c'est votre point d'observation.
Ouais.
Et les aigles sont en face.
Ils viennent sur l'aiglodrome ici pour monter, pour s'élever. Ouais. Ils viennent faire le plein, comme disent les pilotes de planeurs. Et puis ils piquent en face, parce qu'en face, il y a leur nid, la saison des nids. Ils y sont pas souvent, ils passent de manière très furtive. Ouais. C'est extrêmement discret. Alors que du côté sud, là, sur le versant Adret, où il y a les vents ascendants qui les aident à monter, eh ben, on peut les voir voler pendant plusieurs dizaines de minutes. Pour le plaisir, peut-être, je sais pas.
Direction l'aiglodrome de Christian Couloumi, de son association Envergure Alpine. Donc nous sommes, à Aiglier, près de Mont-Dauphin, près de la citadelle de Mont-Dauphin, dans les Hautes-Alpes. Le coin est chaud actuellement, faut dire, parce que ça va être balafré par une ligne à 225 000 volts, quand même, dans la vallée de la Durance, que ne veut pas enterrer pour des raisons économiques RTE. Trop cher pour transporter donc cette électricité, alors à la fois dans les Hautes-Alpes, mais aussi en Italie. Donc ça gueule, ça manifeste. Les aigles, les rapaces sont moyennement satisfaits. Se fait aussi. Et donc là, on imagine la montagne qui ouvre ses ailes. Ce sont donc des aigles qui ouvrent leurs bras, eux, pour capturer le vent, les ascendants. Et c'est un lieu qui est fait pour les grands rapaces, les grands marins du ciel, les voiliers des neiges. Alors, un beau jour ou peut-être une nuit, près de la montagne, on ne s'était pas du tout endormi. Il ne venait pas de nulle part. Nous sommes sur l'aiglodrome avec Christian Couloumi pour vous faire respirer. Alors on entend votre voix, mais on entend aussi beaucoup le vent aujourd'hui. Et donc un aigle peut voler quand même par ces temps-là.
Là c'est du super carburant pour lui. Je ne sais pas combien il y a d'octane dans le vent quand c'est comme ça, mais ça le prend plus à des vitesses là. Il va faire 1000 mètres de dénivelé. Vous m'avez dit que les chamois montaient en un quart d'heure. Ouais, bon, pour l'aigle, c'est beaucoup plus rapide que ça.
Alors on va poser quand même le décor, parce qu'on est à l'entrée de la vallée du Guil, ici.
Exactement, oui.
Donc on a Guillestre qui est à nos pieds. On a donc le massif du Queyras. On est déjà dans le Queyras, ici.
On est dans le Queyras, à la sortie du Queyras, au fond à droite.
Notre aigle, qu'est-ce qu'il fait? Sa journée, c'est quoi, ici?
Ah, il se perche longtemps. Il n'est pas tout le temps en train de voler. Il regarde. Il s'énerve quand il voit du monde, quand c'est le printemps par exemple, il voit d'autres aigles, il n'est pas content du tout, et il fonce dedans. Il leur montre, il dit « je suis pas d'accord, c'est chez moi ici, dehors ». Lui, il est très... c'est un autonomiste.
Hein. C'est ça.
Ouais. Il tolère sa compagne, et puis les autres, il ne veut pas les voir.
Ils sont quand même très fidèles, je crois, les aigles entre eux.
C'est ce qu'on dit, ça.
Ah, c'est ce qu'on dit.
C'est comme les hommes.
C'est ça, c'est ce qu'on dit aussi. Bon, et alors sinon, ici, donc, il attend quoi? Il attend que la marmotte sorte, parce que là, c'est pas encore la période où il est sorti.
Oh, ça va pas tarder, mais il est guette, oui. Parce qu'il a passé un long hiver. Maintenant, c'est bien mieux, parce que fin de l'hiver, là, comme on est en ce moment, les ongulés, donc les chamois, les bouquetins, ont passé des périodes très difficiles. Ils sont amaigris, ils sont au bout du rouleau. Et là, il y a les avalanches également. Alors, il y a des animaux qui meurent. Ah oui. Et vous savez, l'aigle mange des cadavres aussi, comme les vautours. Il n'y a pas de vautours l'hiver ici. Et c'est lui qui s'occupe des cadavres. Et là, il va changer de menu. Son menu va devenir avec de la chasse, vraiment. Il va être vraiment prédateur.
D'accord.
Bon, l'hiver, il le fait aussi, mais il profite, il est opportuniste, il profite des cadavres. Et une fois qu'il a mangé, il se perche, il reste deux jours à digérer, peut-être un peu moins. Et puis voilà.
Et là, si on se retourne, eh bien, on a aussi un territoire à mouflons. Donc...
Oui, alors les mouflons ont été réintroduits dans plusieurs endroits des Alpes.
Ouais.
Ce n'est pas leur pays d'origine, en fait. Non. Hein. Ils ne sont pas vraiment chez eux, ici. Il s'agit d'introduction et pas de réintroduction.
Ouais.
Le mouflon, ça s'apparente au mouton. C'est un cousin des moutons. C'est un mouton sauvage, en fait. Nous, on les aime pour les regarder. Et le loup les aime parce qu'il arrive à les attraper, surtout au début.
Ouais.
Quand il est arrivé, le loup, il est arrivé en terre inconnue.
Ouais.
Et les mouflons, on ne savait pas ce que c'était qu'un loup. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais vous savez, dans l'avion, on vous donne des boules quies, et puis on met un masque sur les yeux.
C'est ça.
Alors les mouflons, ils dormaient un peu comme ça, les pattes en l'air.
Ouais.
Et puis le loup est arrivé, ça les a réveillés. Et ils ont retrouvé cet instinct d'inquiétude. Et l'inquiétude, pour les animaux potentiellement proies, eh ben, c'est une partie de la survie, disons. Et l'intrusion du loup dans ces troupeaux de mouflons a remis les choses à leur place, et les loups, les mouflons qui étaient tout là-haut, dans le fond de la vallée, dans des quartiers plutôt à chamois, eh bien, ils sont redescendus ici, où on est, pas très loin d'ici, dans les pins, dans des endroits un petit peu escarpés, mais moins enneigés. Et là, ils ont plus de chance, parce que l'hiver est moins rude, et également parce que le loup a beaucoup plus de mal à les attraper.
Oh, dites donc, il y a votre copain l'aigle, là.
Ah oui, bah, il se fait secouer.
Mais...
il a du mal à... Il a du mal à tenir
quand même. Oui.
Oui, non, il a du mal à tenir le cap. Mais vous savez, il y a du vent qui est peut-être à, je sais pas, 80, 100 km/h là-haut. Et surtout des turbulences, parce qu'il y a du relief. Alors le relief, ça change l'écoulement
de l'air.
Et ça fait un peu machine à laver par endroits. Et l'aigle, lui, maîtrise
ça. Regardez ça, 180 degrés. Hop, là, de nouveau encore. Oui.
Et tiens, là, il s'est arrêté, il vole sur place. Je ne sais pas si c'est par plaisir ou parce qu'il est perché dans le vide. Il a une patte dans le vide et l'autre dans le néant.
C'est ça.
Il regarde par terre s'il y a quelque chose. Et
oui, bah il nous a vu.
Il fait des exploits.
Coucou.
Il est moins fort, oui. Il est moins fort que le circuit pour faire du surplace, mais il le fait très très bien comme vous le voyez.
Et alors, le vent pour les autres animaux, qu'est-ce que c'est? Parce que là ça bastonne quand même pas mal.
Le vent, c'est l'ennemi. Ah. C'est l'ennemi on parlait à l'instant des proies potentielles. Pour eux, tous les signaux sont perturbés. Quand il n'y a pas de vent, rien ne bouge, les feuilles, les arbres, tout ça. Donc dès qu'il y a un rameau qui bouge un petit peu, on sait que c'est quelque chose. Là, tout bouge, donc tout peut arriver. C'est la même chose pour les sons. On n'entend que ceux qui viennent d'un côté et de l'autre côté, on n'entend absolument rien. Ouais. Et les odeurs, parce que les mammifères sont très sensibles aux odeurs, vivent beaucoup avec ça.
Tout est perturbé, tout est mélangé.
Tout est mélangé, on ne sait plus d'où ça vient. Donc ils sont très très inquiets. Et bien, comme nous d'ailleurs, ça nous rend fous.
D'ailleurs, nous-mêmes, on a tourné 5 fois sur place pour éviter le vent, parce que sinon...
Oui, c'est vrai. Là, on est à l'abri d'un rocher, et du coup, il y a des turbulences, et il nous prend par surprise. Ouais, c'est comme ça, on le sent très bien.
Ah non, à la jumelle, là.
C'est une corneille, mais là, elle se fait beaucoup secouer.
Là, on est en fait à la charnière, Christian Coulomy, de ce... Pas encore du printemps, mais l'hiver, on sent bien que la résistance ne va pas durer forcément très très longtemps. Donc on a encore des belles plaques de neige un peu partout. Il y a de la neige évidemment en station, il n'y a aucun problème. Et puis, il y a quand même ce vent qui balaye, mais très vite, lorsque c'est un vent un petit peu doux, un peu chaud. Ouais. Ce soit d'ailleurs le fun qui est un phénomène géologique. Hein,
c'est, orographique, oui.
Orographique, pardon.
Lié au relief, oui. Voilà. Alors que là, cette saison, c'est l'interpénétration entre... l'hiver et le printemps. Ils se chamaillent tous les deux, il y en a un qui va gagner, c'est le printemps bien sûr, bientôt, mais pas encore, que l'hiver résiste. Et en montagne, il résiste dans les versants à l'ombre, dans les versants ombragés, dans les ubacs. Et si on se mettait entre deux rochers, je suis sûr qu'on va trouver des petites fleurs qui ont tenté leur chance là déjà maintenant. Ouais. Alors qu'en face, à 2005, là en face où c'est tout blanc, le printemps c'est pour dans 3-4 mois là.
Bon, bah Christian, hein, on va. Il est bien votre iglodrome. On va pas dire exactement où il est, comme. Ouais, pas complètement. On vous laisse fermer les yeux et à très bientôt, Christian Coulomy.
À bientôt, Denis. Au revoir.
Alors, mon coloriste préféré, Xavier Pestugier, mon réalisateur, a rajouté, pas pu s'empêcher, des petits sons d'aigle. Alors, les aigles, on les avait sous les yeux, mais c'est vrai, pour tendre le micro pour qu'ils fassent pipi pipi, c'était un peu compliqué quand même. Voilà, merci à Christian Coulomy et donc de son association Envergure Alpine. Vous avez tous les éléments grâce à Anne Gouzon sur le site de CO2 Mon Amour. Vous avez aussi le site de Anne Gouzon sur l'environnement qui est aussi très très bien fait avec plein d'infos. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous. Vous en avez l'habitude, que ce soit sur Europa City ou tout cela, converser entre vous, n'hésitez pas. Le Twitter, simplement chez Sou, voilà, @CHEI2SOX. Merci à Gilles Gaillard, à Michel Bézikian. À la régie, il y avait aussi Jean-François Souvilly, que je n'oublie pas, Claire Destacant, Xavier Pestugia qui réalisait l'émission. La semaine prochaine, ce sera une ronde de printemps. Je vous emmènerai entre autres sur le lac de Grandlieu avec un photographe qui est Erwan Balança. Demain, vous aurez 7h55 Alain Bougrain-Dubourg qui va vous parler dans l'émission de Patricia Martin du PSG de Grignon, du site qui est très très lorgné par le PSG. Et là aussi, on en avait parlé il y a 3-4 semaines. Dans quelques instants, la librairie francophone Emmanuel Kérad.